Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Fobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Alinda Ouedraogo.
Madame, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité ce mardi, Roger Ouedraogo, nouveau directeur général de la police nationale, a été officiellement installé dans ses fonctions. À la une également, procès Thomas Sankara, les réclamations sur les intérêts de la partie civile ont débuté ce mardi à la justice militaire. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis en sport, le français Hubert Velud a confirmé son poste d'entraîneur des étalons ce mardi. L'invité de la rédaction aujourd'hui est Wolfram Fetter, ambassadeur désigné chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Il nous parle de la célébration de la journée de l'Europe qui se tient le 9 mai de chaque année. Voilà pour vos titres. Bienvenue pour ce journal. Cela fait plus de 70 ans que la police nationale est au service des citoyens à travers la sécurisation et la protection des biens et des personnes. Aujourd'hui, 10 mai, le 25e directeur général de la police nationale a officiellement été installé dans ses fonctions. Nommé le 27 avril dernier en Conseil des ministres, Roger Ouedraogo, nouveau directeur général de l'institution républicaine, a officiellement pris le drapeau de commandement des mains du ministre en charge de la sécurité pour exercer ses nouvelles fonctions. On en sait plus dans ce compte-rendu de Alice Kagoné et Marina Traoré.
Le bon se referme ainsi et annonce l'acte solennel de prise de commandement du 25e directeur général de la police nationale. Prenant officiellement le drapeau du commandement des mains du ministre en charge de la sécurité, le contrôleur général Roger Ouedraogo a désormais carte blanche pour exercer son commandement à toute l'institution policière. Roger Ouedraogo, directeur général de la police nationale.
Par la volonté de l'autorité, de la police nationale pour renforcer le corps dans ses différentes missions. Ces missions sont claires, c'est la sécurité des personnes et des biens, c'est la sûreté des institutions et c'est bien évidemment la lutte contre le terrorisme. Donc le ministre chargé de la sécurité a donné des instructions claires pour le renforcement des effectifs de la police nationale dans la lutte.
C'est dans un contexte sécuritaire difficile que le nouveau directeur général prend les rênes de l'institut policière qui paie aussi le lourd tribut de cette crise sécuritaire. D'un ton sec, le nouveau directeur met en garde tout fonctionnaire de la police qui, dans cette situation particulièrement difficile, s'adonnerait à des pratiques qui déshonorent l'institution républicaine. Roger Ouedraogo, directeur général de la police nationale.
Sachez que, au niveau des postes de défense et de sécurité, une organisation particulière qui se met en place. Vous avez entendu parler de la stratégie nationale du contre le terrorisme qui est en voie de finalisation et qui est destinée à fédérer l'ensemble des énergies. Vous savez, la lutte contre le terrorisme n'est pas que militaire. Le chef de l'État l'a dit, elle n'est pas que militaire. Il faut que l'ensemble des composants de la nation puissent se mettre ensemble afin que les civils, les militaires et toutes les composantes donc, puissent mener cette lutte-là à bien.
À en croire le nouveau DG de la police, l'institution républicaine dont la mission est de sécuriser et de protéger les biens et les personnes entend prendre toute sa part dans la lutte contre l'insécurité.
Et puis procès Thomas Sankara, les réclamations sur les intérêts de la partie civile ont repris ce matin à la justice militaire. À l'issue de cette audience, maître Benewende Sankara, avocat de la partie civile, estime que l'émission du certificat de décès par la cour n'est pas conforme et une concertation avec la famille est en cours pour préciser s'il y a eu lieu de faire appel à la décision. Maître Benewende Sankara est au micro de Moumouni Tamboura.
C'est pourquoi je vous dis que cela se fera, bien sûr, en accord avec la famille. On appréciera. S'il faut faire appel sur ce point, puisque ce sont nos intérêts civils, vous le saurez. S'il faut aussi prendre acte purement et simplement de la décision et passer à autre chose, eh bien, la famille nous dira ce qu'il faut faire. Nous constatons que la Chambre a effectivement rejeté l'émission d'un certificat de décès conforme aux faits. Est-ce que cela est dicté par le fait que celui-là qui était poursuivi a été purement et simplement blanchi? Je n'en sais rien, mais il faut que nous ayons les commentaires de la décision pour savoir quel a été le motif.
Le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné mardi l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et 9 autres accusés à payer plus de 800 millions de francs CFA de dommages et intérêts aux ayants droit de l'ex-chef de l'État Thomas Sankara et de ses compagnons. Le montant des dommages et intérêts pour réparation des préjudices moraux et économiques devront être payés pour les ayants droit de Thomas Sankara, a déclaré le juge Urbain Meda. Cette somme devra être payée solidairement par Blaise Compaoré, l'ancien commandant de sa garde Yassine Skafando et l'ex-chef de l'armée en 1987 Gilbert Diendéré, tous condamnés à la perpétuité début avril pour leur implication dans l'assassinat, ainsi que 7 autres accusés condamnés à des peines de 3 à 20 ans de prison. Insécurité au Burkina Faso, le centre nord est l'épicentre d'une crise humanitaire qui s'amplifie du fait de l'insécurité. Plusieurs déplacés tentent d'y survivre, une situation qui n'est pas sans conséquence sur leurs conditions de vie. Confrontés à plusieurs difficultés, ces déplacés internes n'ont d'autre option que de s'adapter et faire preuve de résilience. Pierre Badolo nous plonge au cœur de leurs conditions de vie. De logement et de travail dans ce reportage. Je vous propose de le suivre.
Plusieurs personnes dans la région du centre-nord affluent vers la ville de Kaya suite à l'insécurité qui menace la région. La vie à Kaya est un autre calvaire, un autre défi. Il faut alors affronter l'ardent soleil le jour et dormir à la belle étoile. Une fois à Kaya, il faut tout reprendre à zéro. Un nouveau départ, un nouveau mode de vie, de nouvelles constructions, surtout trouver un boulot. C'est le cas de Moumouni et Saïdou, arrivés il y a 6 jours. Il faut trouver un abri pour la famille qui patiente sous l'ardent soleil. Le vieux Sato Kiswende vient de Kelbo. Il a pris la fuite avec sa famille après que les hommes armés aient abattu son jeune garçon de 26 ans. Le voyage s'est fait à pied et en charrette après 4 jours de marche pour rallier la ville de Kaya.
Nous sommes arrivés ici sans le minimum et depuis notre arrivée, ils ont procédé au recensement, mais jusqu'à présent, nous n'avions pas reçu quelque chose pour le moment et nous sommes dans l'attente. Nous sommes tirés ici d'abord parce qu'il n'y a pas de logement. Nous demandons de l'aide. C'est à cause des terroristes que nous avions fui. Ils sont venus tuer mon fils de 26 ans dans la cour, raison pour laquelle nous avions quitté la localité. Tant que cette situation ne finit pas, personne ne pourra retourner là-bas.
Ibrahim Ouedraogo vient de Bassalgo. Il est arrivé à Kaya il y a environ 2 ans. Pour nourrir des bouches, il doit trouver des trous de WC à creuser dans les terres arides de Kaya.
Depuis que nous sommes là, nous devons nous débrouiller pour manger et dormir. Regardez mes mains. Ce sont des trous de WC que je creuse pour nourrir ma famille. Si je ne sors pas ce jour-là, personne ne va manger. Nous avons souffert là-bas et ici aussi, ce n'est pas simple. Mon doigt est cassé en creusant et on m'a dit de ne rien attraper pendant 14 jours. Mais je ne peux pas. Ma famille doit manger.
Maria Madiko a perdu son mari et des proches. Toute seule, elle doit nourrir 9 enfants à elle seule et 6 autres orphelins. Le coût des denrées n'est cependant pas à la portée de tous.
Je rends grâce à Dieu et je remercie les personnes de bonne volonté qui nous viennent en aide. Nous avons frôlé la mort, mais Dieu merci, la vie continue. On espère.
La province de San Mantenga, à elle seule, compte environ 374 840 personnes déplacées internes.
Du côté de Tougan, la majorité des citoyens pensent que la situation sécuritaire s'est davantage dégradée 100 jours après la prise du pouvoir par l'armée. Pour ainsi renverser la donne, il propose le renforcement du dispositif sécuritaire et l'appui des partenaires extérieurs. La synthèse des réactions avec notre correspondant sur place à Tougan, Ambroise Ki.
Plus de 100 jours après le coup d'état militaire, les commentaires vont bon train à Tougan quant à l'appréciation de la gestion du pouvoir dans le contexte actuel. Pour la plupart des citoyens, le climat sécuritaire s'est davantage dégradé.
Ça ne va toujours pas. Chaque jour que Dieu fait, on entend qu'il y a des soldats qui sont tombés, des VDP qui tombent toujours. Ah, la crise alimentaire aussi est en train de s'augmenter. Ça ne va pas.
Il y a toujours des déplacés. Il y a toujours des morts parmi les militaires.
La situation ne fait que s'empirer sur le terrain. L'espoir qui était né au lendemain du coup d'État par rapport à la situation sécuritaire, je pense que l'espoir est en train de retomber. Parce qu'actuellement, si tu prends le Sourou, il y a beaucoup de zones où on ne peut pas aller. Surtout la zone humide, la vallée du Sourou où actuellement ce sont les Anis qui contrôlent la zone. On ne peut pas y mettre pied. C'est vraiment très très compliqué.
Pour renverser la donne, la population ne tarit pas de propositions. Il s'agit entre autres du renforcement des effectifs et du matériel sur le terrain, de l'accélération des opérations de sécurisation, aussi et surtout la collaboration avec les forces étrangères.
On va demander plus d'engagement, hein. Pourquoi ne pas vraiment tenter d'autres expériences ailleurs?
Il faudrait qu'on voit en termes de disponibilité des FTS, comment on va gérer la situation. S'il y a des zones qui sont en manque, on n'a qu'à vraiment renforcer et mettre les moyens matériels à leur disponibilité.
Il faut œuvrer à accélérer ce qu'il faut accélérer, à faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse restaurer la paix et la sécurité, la bonne cohésion sociale dans le pays.
Tout comme dans d'autres localités de la boucle du Mouroun, l'impact de la crise sécuritaire est visible dans tous les secteurs d'activité du Sourou. Et de plus en plus, les populations plaident pour une attention particulière des autorités actuelles afin d'éviter le pire. Ambroise Kanadonki, Tougan, Radio Omega.
Et puis la journée de l'Europe commémorée chaque 9 mai au Burkina Faso, plusieurs activités ont été organisées à l'occasion de cette journée, notamment en crosse populaire. Le chef de la délégation de l'Union européenne, Wolfram Fetter, a également organisé un cocktail hier lundi au sein de sa résidence officielle. Régis Bonny pour le compte-rendu.
Chaque 9 mai, le vieux continent célèbre la Journée de l'Europe. C'est une journée commémorée au sein des États membres de l'Union européenne qui marque la déclaration Schuman du 9 mai 1950, un discours prononcé avant la naissance de la Communauté économique européenne et considéré comme le texte fondateur de l'Union. Wolfram Vetter, ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso.
L'Europe est fêtée dans le monde en souvenir du discours prononcé le 9 mai 1950. Par un des pères fondateurs de l'Europe d'aujourd'hui, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman. L'Union européenne est une union fondée sur des valeurs universelles. Et le 9 mai est une occasion de les rappeler. La paix, la liberté, les droits humains, la solidarité, le progrès économique et social, la justice sociale, la préservation de notre environnement et de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique.
C'est aussi une occasion d'évoquer les défis actuels qui minent le continent européen avec la question de la crise en Ukraine. Wolfram Vetter, ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso.
Depuis le 24 février dernier, la guerre est de retour en Europe par l'agression non justifiée de Poutine contre l'Ukraine. Cette agression sème la mort et la dévastation et a provoqué une crise humanitaire et l'une des plus grands flux de réfugiés et les déplacés internes observés dans le monde au cours des dernières décennies. Cette agression militaire russe contre l'Ukraine est une attaque contre l'ordre international fondé sur les règles auxquelles nos pays appartiennent. Comme nous le savons, la Russie a sous-estimé la volonté et la capacité de l'Ukraine de se défendre. Et je crois que la Russie a aussi sous-estimé l'unité et la détermination de l'Union européenne et de la communauté internationale plus largement à soutenir l'Ukraine.
Quant au Burkina Faso, les partenaires européens souhaitent un rapide retour à un ordre constitutionnel normal. Wolfram Vetter, ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso.
Souhaitons la réussite de la transition et nous allons soutenir la transition, mais nous souhaitons aussi que le gouvernement peut trouver un accord avec la CEDEAO sur les délais et sur une feuille de route pour le retour à l'ordre constitutionnel démocratique.
C'est le 9 mai 1950 que le ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman a appelé à la mise en commun sous une autorité internationale des productions françaises et allemandes de charbon et d'acier. Considérée comme le début du lancement de la construction européenne, cette déclaration débouche sur la signature le 18 avril 1951 du traité de Paris par 6 États européens que sont l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ils fondent ensemble la communauté européenne du charbon et de l'acier CECA. La CECA est la première des institutions européennes qui donnera naissance à ce qu'on appelle à présent l'Union européenne.
Tout autre chose à présent, le secrétariat permanent du Conseil national du développement durable a renforcé les capacités des journalistes sur l'assurance agricole climatique. Il a organisé les 5 et 6 mai à Dzignaré un atelier de formation au profit des hommes de médias en lien avec cette assurance. Je vous propose le compte-rendu de Hervé Mbayam avec la voix de Jamila Topan.
Le Burkina Faso est confronté à une variabilité des saisons agricoles et des phénomènes climatiques extrêmes tels que la sécheresse et les inondations. Malgré les multiples risques climatiques que subit le pays, il est désormais possible de faire une assurance agricole. Cette formation a justement pour but de permettre aux journalistes de comprendre le concept et de divulguer les avantages de l'assurance. Somanakré Nana, secrétaire permanent du Conseil national du développement durable.
L'important de l'atelier tient au fait que c'est une thématique nouvelle. Tout le monde sait que l'assurance permet, en tout cas à tous ceux qui ont envie de faire face à certains événements imprévus. Mais ici, l'assurance agricole d'abord est peu connue, climatique encore moins. Donc, pour les bénéficiaires, il faut d'abord qu'ils aient l'information exacte et vraiment les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Et qui dit porter l'information, la sensibilisation aux bénéficiaires, aux acteurs, dit qu'il faut trouver quand même les moyens pour disséminer l'information. Et les hommes de presse que vous êtes doivent être placés au premier rang dans cette dissémination. Mais pour que vous puissiez le faire efficacement, il va falloir que vous ayez aussi l'information de base pour pouvoir faire ce travail-là.
C'est la région du Sahel et celle de la boucle du Mône qui ont été choisies comme région pilote, selon le secrétaire permanent du Conseil national du développement durable.
C'est le Sahel d'Ori et puis la commune de Safané, voilà, à Dédougou, où ce sont les, ce que nous appelons les petits exploitants agricoles. Et surtout les plus vulnérables que sont surtout les femmes. C'est eux que ça sera, on va viser dans un premier temps. Les résultats que nous allons tirer à l'issue de ce projet-là vont nous permettre de faire une mise à l'échelle.
Les journalistes disent être mieux outillés pour répondre aux préoccupations du public. Bienvenue Dambélé, journaliste bénéficiaire.
Et notre rôle serait vraiment de sensibiliser à travers nos productions, dans nos presses respectives, pour que les populations donc des régions concernées puissent vraiment adhérer à ce projet, voilà, qui vise aussi de les accompagner d'une manière ou d'une autre.
La durée du projet est de 5 ans. Il vise 20 000 ménages, dont 30% de femmes dans les communes concernées. Le projet est financé par le Fonds mondial pour l'environnement, le Programme des Nations Unies pour le développement de l'État burkinabé.
Et puis en sport, le Français Hubert Velu, de 62 ans, a été confirmé à son poste d'entraîneur des étalons ce mardi. Hubert Velu avait été nommé le 22 avril dernier, puis controversé. Le 4 mai dernier, le président du Comité national olympique et des sports burkinabé, Jean Niamiogo, annonçait qu'un comité serait mis en place pour la désignation du futur entraîneur des étalons. Hubert Velu a donc été officiellement désigné entraîneur des étalons ce 10 mai.
La revue de presse.
La reprise des attaques terroristes au Burkina Faso font les choux gras des quotidiens burkinabés. Autre sujet commenté, la COP15 sur la désertification à Abidjan. La revue de presse, c'est avec Brigitte Sioda.
Si le terrorisme ne nous tue pas, c'est la faim qui le fera, s'exclame l'Express du Faso à sa une à propos de la crise sécuritaire et alimentaire. Depuis maintenant quelques temps, toutes les fins de semaine enregistrent des attaques terroristes, aussi sanglantes les unes que les autres. Si ce n'est pas dans la boucle du Moon, c'est dans la région de l'Est ou au Nord, relate le journal qui invite les autorités à parler. qu'on nous dise au moins quelque chose, martèle l'Express du Faso face au regain des attaques terroristes. En attendant, Sidoya s'interroge sur le sens du patriotisme des Burkinabés. Pour notre confrère, le plus frustrant, c'est bien cette autre guerre dans la guerre entre des partisans de telle ou telle puissance extérieure qui doit accompagner le pays des hommes intègres pour vaincre l'hydre. Dénonçant le fait que les Burkinabés veulent confier leur sécurité à d'autres, l'éditorialiste de Sidoya pense pourtant que les Ukrainiens nous montrent la voie. Ce qui fait dire au quotidien qu'en décidant de prendre langue avec les autorités de la transition malienne en raison de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité maliennes dans la lutte contre le terrorisme, il s'agit d'un aveu des autorités burkinabées qui en dit long sur ce qui se passe sur le terrain dans notre pays. L'Obs, pour sa part, qualifie la manifestation contre la gendarmerie de Yako de comble de l'insouciance après le saccage et l'incendie du poste de contrôle. En effet, pour le doyen des quotidiens, quelles que soient les motivations des commerçants, rien, absolument rien, ne saurait excuser, à plus forte raison, justifier ces actes de vandalisme. Surtout pas dans ce contexte, surtout pas au moment où la nation continue de pleurer les 5 gendarmes tombés sous le champ d'honneur pas plus tard que jeudi dernier à Wanobe dans la province du San Matenga. Espérant que les coupables de tels agissements vont subir la loi dans toute sa rigueur, notre confrère pense que par de tels comportements, on fait le boulot des djihadistes qui, si ça se trouve, sont même en train de rire sous cap de ce service qu'on leur rend, regrette l'observateur Palga. Terminons par la COP15 en Côte d'Ivoire. Le pays se demande que peut en attendre l'Afrique. Si le journal pense que l'objectif est de trouver des moyens de contrer l'avancée du désert, la déforestation, l'appauvrissement des terres arables ou encore la pollution des sols, aujourd'hui au Faso rappelle que 100 milliards de dollars par an avait été promis à l'Afrique il y a 10 ans pour lutter contre les réchauffements climatiques. Mais jusqu'à présent, entre 70 à 80% ont été décaissés. Or, le continent subit cet effet climatique qu'il n'a pas généré. C'est pourquoi notre confrère pense qu'Abidjan ferait bien de remettre au goût du jour cette exigence. Le journal des 1200 logements espère en tout cas que les recommandations qui sortiront de cette conférence mondiale sur la sécheresse ne resteront pas lettre morte. Aujourd'hui au Faso, que les plus grands déforestateurs soient les plus grands payeurs et pour que cela soit possible, notre confrère invite le continent à parler d'une même voix car le désert, lui, avance, avance.
C'est ici qu'on prend fin ce journal réalisé par Edwige Tiendrobogo. Merci à vous de l'avoir suivi.
Radio Omega, l'info en direct.